D'abord, mes excuses pour mon français. Je vais essayer de faire l'exposé en français, mais il y a des mots qui sont plus techniques et peut-être je devrais utiliser un mélange de français et anglais. Merci pour m'inviter. Comme a été dit dans la présentation, je viens de Barcelone, je viens du centre de vision par ordinateur. Ça, c'est un centre de recherche qui est à l'Université autonome de Barcelone, focalisé en vision par ordinateur. C'est juste pour ceux qui, entre vous, n'êtes pas proches à cette technologie. C'est, disons, l'intelligence artificielle appliquée à l'analyse d'images, de n'importe quel type d'image. En fait, au centre de vision par ordinateur, nous sommes plus de 100 chercheurs. Partie des chercheurs, nous sommes de l'université, des autres sont chercheurs contractés par l'institution. Avec plusieurs lignes d'activité, aujourd'hui je ne vais pas parler de tout ça, juste pour contextualiser, il y a des applications dans la santé, il y a des applications dans la mobilité, les véhicules autonomes, il y a des applications dans l'industrie, ce qui s'appelle aujourd'hui industrie 4.0, et il y a des applications, c'est en fait, mon domaine de recherche, dans les applications plus du monde de la culture, des expériences d'utilisateurs, les médias et tout ça. Alors aujourd'hui je vais faire un tour, un overview de plusieurs projets que nous faisons dans la ligne d'activité de l'analyse de documents, en particulier de l'analyse de documents historiques. Ça fait longtemps que nous travaillons sur l'interprétation, l'extraction d'informations de ce type de documents, pas seulement textuels et graphiques. Et pour donner un peu d'unicité à différents projets, parce que en fait ce que je vais expliquer c'est pas seulement un projet, je vais faire les liens à partir d'une idée. En fait c'est l'idée qui connecte les différentes contributions scientifiques que je vais expliquer aujourd'hui. C'est l'idée qui s'appelle les live logging. En fait, ça c'est un livre qui a été écrit, ça fait presque 20 ans, par un ingénieur qui était à Microsoft. Et cet ingénieur a développé un projet où, basiquement, l'idée c'était, aujourd'hui, notre vie est sur Internet, c'est-à-dire nous avons des courriers électroniques, nous avons des connexions dans les réseaux sociaux, on a Google. Donc, si on pense avant d'Internet, si on numérise toutes les informations qu'on a à la maison, tous les documents, toutes les factures, toutes les lettres qu'on a, et on est capable de faire les interprétations et croiser les infos. À la fin, ce qu'on a ou ce qu'on pourrait avoir serait la trace de l'histoire d'une personne ou des communautés de personnes. Donc, à partir de cette idée, on a travaillé sur des documents historiques. Et notre hypothèse de partie, c'est si on numérise tous les documents qui sont dans les archives historiques, les bibliothèques et tout ça, sont en train d'être numérisés. Si on numérise tous ces volumes d'informations et on extrait les informations et on génère les big data à partir de ça, on pourrait faire la reconstruction des vies de notre ancêtre, des communautés du passé, et aussi faire des analyses socio-économiques de la société qu'il y avait avant. Mais pas seulement à partir des documents qu'il y a dans les archives, il y a aussi ce qui s'appelle les archives naturelles, c'est-à-dire les archives qui sont dans la mémoire des individualités, des personnes. Presque tout le monde a chez nos parents ou grands-parents une boîte avec des photos, avec des lettres de notre parents ou avant-parents ou même plus. Donc, si on fait aussi participer les individus particulièrement en faisant cette saisie des informations, à la fin, on aurait cette richesse pour reconstruire les passés. C'est un peu l'idée des parties. On a commencé à travailler avec des documents des populations. C'est un peu ce qui. Le type de documents. Après, je vais vous montrer des autres projets relationnés. Mais les points de partie, c'est des documents manuscrits. Où il y a les informations individuelles des familles, des maisons, des particuliers. En particulier, nous avons travaillé avec des types de collections. Une collection, c'est des documents de mariage. Ça, c'est la raison de ça à Roche. Ce sont des documents de mariage. Ça, c'est parce qu'à Barcelone, dans l'archive de la cathédrale de Barcelone, il y a une collection très particulière. Il y a 5 siècles de mariages enregistrés, manuscrits. Donc, on a fait la numérisation de ça et on a fait l'extraction de l'information. Je vais expliquer un peu plus. Et à droite, ce sont des documents pareils, mais ces cases-là, ce sont des recensements. Donc, ce sont des documents que toutes les villes, je crois qu'en France c'est la même chose, toutes les villes, tous les 4-5 ans, font un enregistrement de toute la population organisée par rue, par maison. Donc, on a dans chaque partie les informations, les noms des familles qui habitaient dans une maison, les offices, et plusieurs autres informations. Donc, on est parti de ça pour faire ce qu'on appelle les réseaux sociaux du passé, c'est-à-dire. En fait, un peu l'idée, c'est si on a la numérisation, comme je dis avant, de tous ces types de documents, et on fait l'extraction automatique à partir des techniques de vision par ordinateur, d'analyse d'image, on pourrait extraire des informations des personnes, la relation entre personnes, on pourrait extraire les informations des maisons, des villes. Donc, on pourrait commencer à construire en temps particulier du passé ces réseaux sociaux. Et à partir de ça, si on fait l'interprétation de plus de documents, donc on analyse des photos, on analyse des lettres qui sont liées à toutes les personnes qu'on a dans la base de données, on peut faire une analyse des communautés, on peut lier les personnes par exemple qui habitaient dans la même rue ou les personnes qui sont connectées parce qu'on étudiait dans la même école ou les personnes qui travaillaient dans le même office. Et en plus, si on fait l'analyse plus sémantique, à la fin, on pourrait faire un Facebook ou quelque chose pareil. Qui pourrait nous connecter avec notre ancêtre. Donc à la fin, on pourrait choisir une personne, mon grand-parent, et voir toute la vie de cette personne, plusieurs années, les relations que cette personne avait, les communautés et tout ça. Donc c'est en fait un réseau social, disons, à plusieurs dimensions. Juste pour illustrer ça, j'ai fait une petite illustration avec ma famille. Voilà, ça c'est une photo de mes grands-parents. Parce qu'en fait, on a commencé une des pilotes de ces projets, on l'a fait dans ma ville de naissance. Donc, j'ai obtenu les informations de ma propre famille. Donc, voilà, si je suis capable d'extraire les informations à partir de documents manuscrits historiques et ajouter les informations que j'ai à la maison, que j'ai récupéré les documents papier que j'ai récupéré d'eux, je pourrais faire cet réseau dans une étape de l'histoire et à partir des recensements, j'ai trouvé donc mon grand-père avec les relations des parents, des grands-parents, si j'ai fait la consultation des documents plus anciens. Et à partir de ça, on peut reconstruire toute la généalogie, on peut trouver et faire la projection sur les cartes historiques de la maison ou l'adresse où ils habitaient, où une personne habitait. Je peux trouver la relation ou la distance entre les maisons des plusieurs personnes dans la famille. Je peux alors connecter avec des photos, je vais parler des photos tout à l'heure, des photos historiques relationnées avec cette famille, des lettres, même des factures, des informations extraites des journaux historiques qui avaient des nouvelles liées à des événements qui ont passé le même jour que certaines. Activités que la famille a fait et des autres photos, etc. Bon, ça c'est pour la reconstruction particulière, mais si on fait une reconstruction plus générique, on peut trouver des certaines villes, les pyramides des populations, les noms les plus fréquents, les offices les plus fréquents. Bon, on fait une analytique plus. Général agréé de l'histoire. Bon, comment est-ce qu'on fait ça? On fait des machines qui sont capables, des algorithmes à la fin, qui sont capables de faire d'abord la reconnaissance, la reconnaissance du texte. Je crois que tout le monde connaît qu'est-ce que c'est un OCR, un système de lecture de caractères. C'est un logiciel qui, à partir de l'analyse de l'image et à partir de la forme des objets qui sont les caractères de l'image, est capable de faire la conversion d'une image en texte éditable, un texte dans un fichier texte qu'on peut modifier. Ça, c'est pour l'OCR plus classique. Pour les manuscrits, l'OCR du manuscrit, c'est plus difficile parce qu'il y a la variabilité entre les styles d'écriture. Il y a, par exemple, les documents historiques, bon, il y a des mots qui sont des mots anciens qui actuellement ne sont pas utilisés. Il y a la dégradation des physiques des documents qui gêne la reconnaissance. Donc, une reconnaissance, une transcription parfaite à un manuscrit, actuellement, c'est vraiment très très difficile pour ce type de documents. Ce qui a évolué beaucoup dans l'analyse des documents, dans l'analyse d'images des documents, c'est ce qui s'appelle word spotting. Word spotting, c'est une idée d'indexation, c'est-à-dire si on n'est pas capable de faire une reconnaissance parfaite de tous les mots, toutes les lignes qu'il y a dans les documents, quand même on peut faire des requêtes à partir des mots et faire la comparaison de la forme d'un mot requête avec tous les mots qu'il y a dans la collection de documents, dans la collection d'images de documents, et quand même on peut récupérer les pages, les images des pages où il y a quelque chose qui ressemble à ces mots. Dans ce type de documents, quand même, on pourrait faire une requête par nom de famille, par exemple, par nom de ville, par nom de rue. Et tout ça. Bien sûr, on fait des requêtes pas seulement dans les documents textuels, on peut faire des requêtes dans des documents plus, disons, graphiques, ça ce sont des autres projets. On peut faire des requêtes, je ne vais pas expliquer les particularités techniques, mais on peut faire des requêtes à partir du texte, c'est-à-dire c'est plus facile de faire une requête à partir de l'image. Si on a une petite image, une imagette d'un mot, et toute l'image d'une page à la fin, c'est comparer la forme en termes d'image de l'image petite avec toute l'image. Mais ce que les utilisateurs demandent, c'est faire une requête par texte, donc écrire un mot et les chercher dans une image. Alors ça c'est plus compliqué. Il y a des techniques qui font une projection, c'est une projection, disons, une fonction mathématique qui fait une projection des caractéristiques de l'image et des caractéristiques extraites du texte, de la requête, et font une projection dans un espace commun qui fait que les mêmes mots au niveau visuel que les mots au niveau textuel sont projetés avec ces fonctions mathématiques, sont projetés dans les mêmes points dans cet espace, donc alors il y a une corrélation entre le texte et l'image. Bon, ça c'est pour l'indexation. Donc on a fait des outils pour faire l'indexation, même après, si quelqu'un est intéressé, je peux vous montrer. On a fait un petit navigateur avec pour les téléphones portables, pour chercher des mots dans les documents historiques. On l'a fait par des autres types de documents, pas seulement des documents manuscrits, des documents imprimés. Par exemple, ça c'est une collection qu'on a aussi dans les archives à Barcelone, des documents, des dossiers, on dit des dossiers des frontières. Ce sont des dossiers qu'on a de l'époque après la guerre civile espagnole, de tout le monde qui croisait la frontière entre l'Espagne et la France. Donc il y a des dossiers des personnes qui sont envoyées à les prisons. Bon, il y a plusieurs informations. Donc on a aussi des informations des personnes et on peut récupérer qu'est-ce qui s'est passé pour quelqu'un dans une époque particulière. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Si on fait l'indexation, si on fait la reconnaissance, ça ne suffit pas pour cet objectif que j'expliquais au début, parce qu'on a besoin des informations contextuelles, des informations sémantiques. C'est-à-dire, par exemple, ça c'est un document de mariage, donc bon, ça c'est écrit en catalan. Mais basiquement, ce qu'il y a ici, c'est dans ces jours, il y a les noms du mari, les noms de l'épouse, donc celui-là s'est marié avec celle-là, il y a les noms des parents, et l'adresse, l'église, et bon, les autres informations. Si on veut faire cette extraction générique d'informations, si on veut faire les data mining, on a besoin de connaître pas la transcription d'un mot, mais aussi la catégorie sémantique d'un mot. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean, je vais connaître que c'est qui si le texte c'est Jean, mais que la catégorie de ces mots c'est nom de personne, ou nom d'homme, ou nom de femme. Alors, pour faire ça, on dit qu'il faut faire des systèmes de lecture, des systèmes de reconnaissance sémantique. Les systèmes sémantiques, basiquement, il y a plusieurs manières de faire ça. Une manière serait, ok, on prend les systèmes de reconnaissance des documents manuscrits, les traditionnels, on fait la transcription avec toutes les erreurs qu'il y aura. Et à partir de ça, à partir du texte qu'on a transcrit, on fait l'association sémantique des catégories de mots pour finalement avoir une base de données remplie avec toutes les informations. Si on fait ça, on a le problème que s'il y a des erreurs de transcription, après, peut-être les classifieurs sémantiques ne marchera pas parce qu'elle ne sera capable de trouver dans les dictionnaires que ce mot veut dire ça ou ça ou ça. Alors, on a utilisé une approche différente. Et l'approche, c'est travailler directement à partir de l'image. C'est-à-dire directement à partir de l'image, à partir de la forme des objets, c'est-à-dire des mots dans l'image, trouver quelle est la catégorie plus probable qu'on peut associer à ces mots-là. La raison de ça, c'est que par certaines catégories, on trouve qu'il y a une probabilité d'avoir certaines formes, à la fin, certaines formes veut dire certains caractères dans certaines positions. Et ça marche plus bien, surtout pour catégoriser des mots qu'on n'a pas dans les dictionnaires. C'est-à-dire, peut-être on a un nom qu'on n'avait pas vu avant, donc on ne l'a pas dans les dictionnaires, mais on connaît que ces mots-là, c'est un nom des personnes. Après, on verra quelle est la transcription. Bon, pour faire ça, je ne vais pas expliquer les particularités techniques parce que je crois que l'audience n'est pas du côté informatique. Mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé, bien sûr, je peux expliquer les particularités. Mais bon, juste pour donner des paroles clés, aujourd'hui, dans notre domaine, tout le monde travaille avec les réseaux neuronaux. Ce sont des systèmes qui marchent très bien. On a fait ça, on a utilisé des systèmes neuronaux. Ce sont des systèmes qui sont capables de reconnaître à partir de l'apprentissage. Ça veut dire qu'on doit donner à la machine, au logiciel, plusieurs exemples de, dans ce cas-là, de transcription et de catégorisation sémantique pour que le système soit capable de faire finalement l'association, la classification. Bon, à partir de ça, ce qu'on a fait, on a été capable de faire, c'est à partir d'un document historique, comme par exemple le document de mariage que j'ai montré tout à l'heure, remplir les fiches d'information qui correspondent au mari, à la femme qui se sont mariés dans ce registre particulier, et faire ça répétitivement par tous les documents. Donc on a en fait cette collection des 5 siècles de mariage de Barcelone, on a complètement transcrit et rempli la base de données, donc maintenant on peut chercher des informations et reconstruire des généalogies et tout ça. On l'a fait pas, je vais expliquer après, on n'a fait pas tout ça automatiquement. Hein. Actuellement, la technologie ne permet pas de faire un système complètement automatique. La couche plus haute de ce système, ou de cette approche, serait ce qu'on appelle la reconnaissance intermodale, c'est-à-dire on ne travaille seulement avec des informations des documents manuscrits, comme j'ai montré dans les premières slides. On est intéressé à faire les croisements entre les informations textuelles, les informations graphiques, les informations pictorielles, c'est-à-dire les images, les photographies. Donc, on doit faire des systèmes qui sont capables de faire la liaison entre les informations ou les images des informations textuelles et les images plus graphiques qui sémantiquement sont liées à ça. Juste pour illustrer cette idée, on peut chercher dans la presse historique des informations. Mais la presse historique, comme la presse qu'il y a maintenant, a des informations textuelles et des informations visuelles, des informations des images. Ce qu'on a fait, c'est un travail qu'on a publié il y a des ans, a été faire une corrélation avec des réseaux neuronaux aussi, faire des systèmes qui sont capables de faire une corrélation entre les informations textuelles, c'est-à-dire tous les textes qu'il y a dans une page, par exemple, d'une nouvelle, d'un journal, et les descripteurs visuels qu'on peut associer à les images. Les informations textuelles nous donnent des caractéristiques sémantiques, c'est-à-dire pas tous les textes, mais on est capable d'extraire dans un espace intermédiaire que cet article-là parle de politique, de certaines personnes, de cette époque-là, d'un événement particulier. Et à partir de toutes ces, étiquettes sémantiques, on peut associer ça aux images. Donc finalement, on a un étiquetage plus riche pour les images, pour à partir de ça faire des requêtes sémantiques dans des autres journaux. Juste pour illustrer ça. Bon, la partie qu'il y a au début, c'est la structure de ces réseaux neuronaux, mais juste l'idée, vous pouvez, je crois, voir l'idée, c'est on prend les deux sources d'information, les textes et les images, et on a à droite une représentation jointe entre les deux. Ça veut dire que on est capable d'associer des étiquettes sémantiques dans un espace transformé avec des fonctions mathématiques, comme je dis avant. On est capable d'associer ces, en anglais on dit des topics, c'est une chose qui s'appelle topics models, à la fois à la partie textuelle et la partie d'image. À partir de ça, on peut faire des requêtes comme ce qu'on a à la part de dessus. C'est-à-dire, pour tous ces types de. Pour chaque fil d'image, on a quels sont les mots clés ou les descripteurs clés qui décrivent ces types d'images. Par exemple, la première fil, les mots clés ou les idées clés qui décrivent ça sont université, étudiant, président. Collège, school, bon, ça c'est pour la première. Ça c'est parce que si on ne voit la partie textuelle, si on n'avait pas extrait les informations de la partie textuelle, on dirait que ce sont des images des bâtiments, sans aucun contexte. Mais ça, ce sont des images des bâtiments, des universités, des étudiants et tout ça. Donc on a appris à partir des textes, des nouvelles qu'il y avait autour de ça, que ce sont des images des universités et tout ça. La même chose pour les deuxièmes. Il y a ici donc album, musique, chanson, tout ça. Et les troisièmes, c'est une voiture, bien sûr, mais il y a aussi les mots en anglais: car, model, engine, system, wheel. Donc il y a une possibilité plus riche de faire des requêtes pour chercher des images. Mais encore plus, et ça c'est une chose qu'en vision par ordinateur, maintenant c'est très état de l'art, c'est ce qu'on appelle la subtitulation automatique d'images. C'est-à-dire, si on a cette possibilité d'associer une description textuelle sémantiquement aux images, on peut faire la projection inverse, c'est-à-dire à partir d'une image, on peut générer une phrase, une séquence de mots qui soit correcte pour faire la description de l'image. En fait, l'idée de ça, ce sont des systèmes qui s'appellent auto-encoders, encoders, decoders. Mais ça, c'est un peu l'idée que les chercheurs qui travaillent dans la traduction automatique font. La traduction automatique, à la fin, c'est un système qui prend les mots, la séquence des mots d'un côté. Il y a une machine, un logiciel, qui transforme cette séquence des mots à une représentation interne qui est commune entre les deux langues. et à partir de cette représentation interne, fait la génération des mots de sortie qui sont la traduction. Quand on utilise Google Translator, le logiciel qu'il y a là fait ça. Prend les mots d'entrée, transforme en espace commun et faire la transformation inverse dans la sortie. Ce qu'on fait, c'est prendre la première partie et au lieu de prendre une séquence de mots d'entrée, on prend une image. Donc on fait la transformation de cette image dans cet espace sémantique commun pour faire la traduction inverse à une séquence de mots. Donc à partir de ça, on est capable de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, pour ces images, on est capable de faire une description qui est très plausible, ça, c'est la description qu'il y a, on était généré par un logiciel, pas par une personne. Donc un logiciel a dit « a group of people standing around a white table ». Bon, c'est un premier résultat. Bien sûr, ce qu'on voudrait faire, c'est quelque chose comme ça. On est encore capable de faire ça. C'est-à-dire, pas dire seulement que ça c'est une salle à manger, sinon dire que c'est ce qui est appelé « first class Chinese tea room on the ciudad de Buenos Aires ». On pourrait faire ça si on a toutes ces informations contextuelles qui catégorisent plus les images. Mais bon, on est en train de faire ce type de choses. Bon, je vais finir, je crois que j'ai utilisé les 30 minutes, donc je vais finaliser juste pour expliquer qu'on a fait tout ça, on est en train de faire tout ça avec un modèle qu'on appelle d'innovation sociale, c'est-à-dire tous ces types de systèmes de reconnaissance d'image, pour nous, est encore recherche, comme je dis avant, on n'est pas capable de faire un système complètement automatique qui prend 1000 images des documents numérisés et qui fait la transcription complètement et parfaite à une base de données. Donc ce qu'on a fait a été d'utiliser des systèmes par Internet qui s'appelle le système de crowdsourcing, de participation humaine, où les utilisateurs font les validations des transcriptions qui ont été faites par la machine. On a commencé par des transcriptions manuelles, complètement manuelles. On a fait un système juste de remplissage des formulaires. Mais après, on a utilisé, on a rétroalimenté les systèmes et on a fait des sessions. On a travaillé à plusieurs, on a répété l'expérience à plusieurs villes parce qu'en fait, l'idée c'est s'il y a des volontaires qui veulent nous aider à faire la validation de ça. Si c'est les informations de l'histoire d'une ville, en même temps qu'ils sont en train de nous aider à faire la validation, ils vont trouver les informations de l'histoire de sa propre ville. Alors avec cette idée, on a travaillé avec des associations de voisins, des associations culturelles locales. Donc on a fait plusieurs sessions de formation pour expliquer même aux écoles, avec des enfants et tout ça, qui avec différents systèmes de validation pour valider l'automatisation des procès, nous ont aidé à faire cette transcription. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est la validation à partir des jeux. Donc, faire la validation avec une page web, c'est ennuyé. Mais si on le fait avec des théories de jeux, c'est-à-dire on fait un jeu, on a développé des jeux pour les téléphones portables, où il y a des mots et l'utilisateur doit faire par exemple trouver les mots images qui est associé à un mot textuel. À la fin, ce qu'il y a derrière, c'est la transcription automatique et différentes possibilités de transcription automatique. Et l'utilisateur, en jouant, nous fait la validation. Donc, si on est capable de faire des jeux qui massivement sont utilisés par plusieurs personnes, on pourra faire cette validation de plus en plus, plus rapidement. On a aussi travaillé avec des systèmes de visualisation, par exemple des systèmes de visualisation des photos qui ne soient pas les typiques systèmes de montrer les photos une après l'autre, donc des systèmes plus de navigation par l'espace des photos où tu peux choisir une photo et tu as un zoom avec toutes les photos qui sont plus proches au niveau sémantique par exemple, donc tu peux trouver des familles de photos qui sont liées les unes à les autres. Et dernière idée, je vais déjà finir avec ça. Ça, c'est pas les projets ou nos projets, c'est un projet au niveau européen que peut-être quelqu'un de vous connaissez. Mais sinon, je crois que c'est très intéressant que ces projets soient connus par la communauté en général, la communauté des. Pas seulement la communauté informatique, la communauté des humanités, des sciences sociales et tout ça. C'est un projet qui s'appelle Time Machine. Nous sommes dans ce projet. En fait, ce n'est pas vraiment un projet encore. En Europe, il y a des grands, grands projets qui s'appellent FED Flagships. Ce sont des projets de 10 ans avec, je ne sais pas combien, centaines de millions d'euros. Et l'année dernière, il y a eu une présélection des projets au niveau européen pour dans les prochains programmes européens qui va commencer dans un an. Ces projets qui ont été présélectionnés devront être financés. Donc maintenant, c'est une communauté. Et maintenant, ce n'est pas vraiment un projet, c'est une communauté formée par plus de 200 partenaires, entreprises, labos, sciences humaines, sociales, informatiques et tout ça. Et le projet s'appelle Time Machine parce que l'idée, c'est extraire les informations, donc appliquer l'intelligence artificielle aux informations de la culture européenne de toutes les époques, des musées, archives, archéologie numérisée. Donc, si on a toutes ces informations numérisées et on fait l'extraction d'informations et on croise cette information, on pourra faire la reconstruction de l'histoire. On pourra faire la reconstruction de l'histoire avec la réalité augmentée, avec des idées comme ce que je vais montrer aujourd'hui, les réseaux sociaux du passé, la requête de certains objets culturels et tout ça. Maintenant, le statut de ces projets, c'est la communauté, il y a une certaine organisation de cette communauté et l'idée c'est y ajouter plus de groupes, des labos, des universités, pour faire un peu le lobbying côté recherche à la communauté européenne pour dire voilà, nous sommes plus de 1000 institutions, établissements, entreprises, universités avec une ligne de travail que vous devriez financer dans les prochains programmes européens. Pour faire ça, bon, il y a les liens. Et je crois que c'est intéressant que tous les, je ne sais pas si tous les labos qui sont ici, mais il y a plusieurs qui peut-être seraient intéressés. En fait, il y a les Time Machine global et il y a les Time Machine local. Donc, il y a plusieurs villes en Europe ou régions, pas seulement des villes, qui font la sous-communauté de cette région, de ce pays, de cette ville. Il y a les Time Machine Amsterdam, les Time Machine Paris, les Time Machine Barcelone, nous sommes en train de monter les Time Machine Barcelone, Florence, bon, il y a plusieurs. Donc, un peu c'est comme au niveau européen, avec ces nombres de partenaires, c'est très grand. C'est plus facile de s'organiser localement et à partir des informations locales, faire un système, une plateforme de croisement d'informations où chacun va contribuer avec ses données locaux. Et c'est tout. Merci. Et bon, si vous avez des questions, vous m'appelez.
Oui, je pense qu'on peut être bien de faire une petite période de questions rapidement avant de écouter Véronique Aguin.
Peut-être. Alors, une information d'abord. La Time Machine de Venise, il y a eu un très beau documentaire qui est passé sur Arte, que je recommande à tout le monde, à vous trouver ça sur YouTube, tout simplement, Venice Time Machine, et il montre voilà, le projet, c'est vraiment très intéressant à suivre. Alors, j'ai bien aimé votre présentation, enfin, qui était très claire et qui illustre bien, je crois, la complémentarité dont on parlait tout à l'heure, parce que les spécialistes d'informatique et les documentalistes, d'ailleurs, en gros, nous disent, comme Obama, « Yes, we can », ou « we will can ». Et nous, la question, c'est « what for ?» Et c'est un peu la question qui se pose aussi et que je voulais vous poser, c'est-à-dire, imaginons que ce soit résolu, hein, que tous les problèmes soient résolus, et que vont en faire les citoyens de ces informations ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on peut remonter son arbre généalogique, croiser ? Parce que dans ce genre de projet, on part toujours du principe qu'il va y avoir un public qui va être intéressé. Parce que même le crowdsourcing que vous avez présenté, c'est plutôt un moyen qu'une fin en soi. C'est une manière d'associer effectivement les citoyens. Est-ce qu'il y a déjà eu des études sur ce que pourraient faire donc les utilisateurs, une fois qu'ils auraient accès à toutes ces données historiques, y compris les utilisateurs professionnels, les historiens?
Oui, bien sûr. Voilà. Il y a plusieurs niveaux. Il y a les citoyens. Juste, comme citoyenne, je peux faire la consultation plus émotive de mon arbre généalogique. C'est un peu ce que j'ai montré. Mais il y a bien sûr les utilisateurs professionnels. Par exemple, ce que j'ai montré, je ne l'ai pas dit avant, nous avons travaillé avec un autre centre de recherche, que c'est un centre d'études démographiques. Donc, à partir de l'analyse globale des informations, ils ont fait sa recherche, l'évolution des populations et tout ça. Donc, il y a bien sûr une exploitation professionnelle. On n'a pas travaillé, mais je sais qu'il y a des études qui sont faites à partir des informations généalogiques pour des hôpitaux. Par exemple, il y a des médecins qui veulent étudier l'évolution d'une maladie dans une
épidémiologie,
par exemple. Donc, ils peuvent voir à partir de documents, des décès, comme géographiquement l'épidémie a évolué. Par exemple. Et de l'autre côté, par exemple à Time Machine, il y a des entreprises qui sont des entreprises de nouveaux formats. Par exemple, télévision, des logiciels éducatifs qui, à partir des données, font des nouveaux formats de communication, reportages. Un des industriels qu'il y a à Time Machine, c'est Ubisoft. Ubisoft, c'est cette entreprise, je crois que c'est française, non, c'est, qui fait des jeux par ordinateur, et c'est les, on s'appelle ça, les Assassin's Creed. C'est très, très connu. Donc, cette entreprise, il y a eu une réunion de Time Machine à Amsterdam il y a 2 semaines, et il y avait une dame qui expliquait, du département d'innovation, qui expliquait comme ils ont fait la récréation de la cathédrale de Notre-Dame dans le jeu. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est, malgré que ce soit un jeu, que tous les personnages, les monuments historiques soient fidèles à la réalité. Donc, ils ont fait la reconstruction virtuelle de Notre-Dame à partir de plusieurs photos. Ils ont fait la photogrammétrie. Donc, à partir du collage de plusieurs photos, ils ont pu faire la reconstruction 3D, bien sûr, après, à partir des techniciens et tout ça. Donc il y a plusieurs utilisations à partir de l'exploitation de ces données. En fait, à Time Machine, il y a un des Word Packages qui c'est juste pour ça, pour étudier quels sont les nouveaux formats, les nouveaux systèmes d'exploitation qu'on peut imaginer pour 10 ans.
Alors, merci d'abord, c'était effectivement très complet. Il y a beaucoup de choses, hein. Vous avez présenté beaucoup de choses. C'est plus une remarque finalement qu'une question. J'ai un collègue dans notre université qui finalement a pour objectif, c'est un historien, et qui travaille sur des correspondances, sur une correspondance d'une personne, avec qui on a collaboré. Et l'un des objectifs, et c'est amusant, enfin, c'est de faire ce fameux réseau social. Et je pense que, alors vous avez parlé de documents administratifs, mais il y a aussi, alors peut-être que vous avez déjà ce type de documents, mais les correspondances aussi pourrait montrer peut-être même plus encore les liens sociaux qui existent entre les différentes personnes. C'est finalement le parler de Facebook, tout le monde a ri, mais finalement la correspondance c'est une espèce de Facebook IRL. L'idée de ce collègue, c'est sur une correspondance au 17e, de justement de reconstruire un petit peu quels étaient les cercles d'influence des différentes personnes publiques.
Oui.
Mais j'imagine que vous avez peut-être ce type de document sur lequel vous travaillez
Nous n'avons pas encore travaillé directement avec la correspondance, mais en fait nous avons une collaboration avec les archives régionales et ils nous fournissent différents types de collections. Ça dépend des intérêts de la recherche, qu'on fait les documents d'un type ou de l'autre. Maintenant, par exemple, nous travaillons à partir des photos, parce qu'il y a la richesse de la représentation graphique. Mais bien sûr, ils nous ont parlé de ce type de documents.
Parce qu'en fait, vous devez faire à chaque fois de réapprentissage sur un type d'écriture donnée, et c'est
bien
très
sûr.
Compliqué.
Bien sûr, oui.
Juste une remarque, si je peux me permettre de répondre à la question. Il y a également les correspondances, je pense à ça, clandestines des dépôts de données. Il y a un chercheur qui s'appelle Anthony McKenna, qui est à Saint-Étienne, je ne sais pas si vous connaissez, qui a travaillé longuement dessus, et il a créé un réseau. Justement, un projet CITER, c'est un projet ANR, c'est le projet CITER qui créait justement ces réseaux de communication sur ces correspondances clandestines. Et on a eu l'occasion de travailler avec lui pour faire de l'extraction d'informations, pour faire en fait ce que présentait Joseph tout à l'heure du word spotting, parce qu'on ne pouvait pas transcrire ces textes qui étaient très mal écrits, puisqu'ils étaient des vrais brouillons rédactionnels en fait. Donc il y a déjà des projets qui correspondent un peu à ça. Il faudrait aller regarder le projet CITER, projet ANR CITER.
D'accord.
C'est un projet qui a été terminé aujourd'hui, mais qui a été porté par Anthony McKenna. Et en tout cas, il a travaillé dans ce contexte.
Merci.